Renault.
Souvent, les gens me demandent « Allez, José, refais-nous machin qu'on rigole !» Mais non, il faut l'ambiance, la bonne température, ni trop chaud, ni trop froid. Mais quand c'est bien réglé, attention, mon bonhomme.
Roulez à la bonne température. En ce moment, chez Renault Car Service, bénéficiez de 40 euros déduits sur votre recharge climatisation pour tout véhicule. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre à particulier jusqu'au 31 août 2024. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. L'Automobile Magazine, classement des lecteurs 2023.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Nous avons encore beaucoup de choses à vous raconter, chers auditeurs. Simon Dutin, Julien Beneteau, Marion Bartoli, Marie Martineau. Dans quelques instants, le bras de fer des GG sur l'engagement des sportifs et cette déclaration hier de Marcus Thuram. Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose? Raymond Domenech s'invite dans la punchline des GG à 10h30. Lui qui a crépi de Zerbi. C'était en fin de semaine. Le coach italien qui pourrait très vraisemblablement arriver à l'Olympique de Marseille. On en parle donc à 10h30. Et puis 11h, il s'est retiré de Roland-Garros. Il va certainement déclarer forfait pour Wimbledon. L'ère Djoko est-elle terminée? Je poserai la question au GG. Mais évidemment, on attend impatiemment Marion Bartoli, Julien Beneteau sur le sujet. Et puis 10h45, beaucoup d'informations à vous donner. Le rugby, l'athlé, ce sera le zapping des GG. On s'en fout pas. Chers auditeurs, il faut bien m'écouter maintenant, parce que RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Profitez de l'expérience RMC, le voyage à Dortmund, c'est le vol plus l'hôtel. La rencontre avec les équipes d'RMC Sport et bien sûr deux places pour France-Pologne le 25 juin prochain. C'est le troisième match des Bleus dans cet Euro. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour envoyer Euro au 732-16, Euro au 732-16. Il y aura un grand gagnant dans cette émission avant midi. N'hésitez pas à jouer les copains et bonne chance pour ce jeu concours. On va prendre la direction du Mans où on va retrouver notre copain de Twitch, du Twitch RMC Sport. C'est Lemuel. Salut Lemuel.
Ça va les amis ?
Hello.
Bah écoute, on va bien. Toi, tu as passé la nuit en inside chez Peugeot. Raconte-nous comment ça se passe. Ça a été une nuit un petit peu perturbée. Hein.
Exactement. Bon, déjà, je vous confirme, j'en suis bien à mon 18e café. Tout va bien. Et oui, une nuit très mouvementée. On a parlé à beaucoup de monde sur place qui nous confirme que ça a été une des nuits les plus pluvieuses de l'histoire du Mans. On a eu tout simplement 6 heures de safety car pendant lesquelles les pilotes se sont enchaînés pour rouler à 90 km/h à peu près derrière une safety car avec une visibilité pratiquement nulle. Ce que je peux vous faire, si vous voulez, je vous passe Stoffel Van Dorn, un des pilotes de la 94. Il va un peu vous décrire comment c'est passé cette nuit, on va dire, un peu dantesque.
Passe le combiné, comme on dit en 1980. Allez, avec grand plaisir, Lemuel. Et comme ça, nous allons accueillir Stoffel Van Dorn, un pilote de la Peugeot numéro 94. Bonjour Stoffel.
Allô.
Bonjour Stoffel. Allez. Merci d'être avec nous en direct dans les grandes gueules du sport. Bon, c'était l'enfer cette nuit?
Oui, c'était pas facile. Beaucoup de safety cars. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps derrière une safety car de ma vie, mais... voilà, maintenant de nouveau safety car, mais il fait sec, mais je pense que ça restera sec jusqu'à la fin.
Ok, bah c'est ce qu'on peut vous souhaiter, vous espérer pour cette Peugeot et pour l'écurie Peugeot, hein, numéro 94, numéro 93. Justement, la vôtre, numéro 94, quelles sont les ambitions là pour la fin de la course? Je crois que là vous êtes 14e. Hein.
Oui, je sais pas exactement où on est. Ça dépend un peu des arrêts au stand et tout. Voilà, le plateau, il reste ensemble. Il y a des safety cars qui gardent le plateau assez serré. Donc voilà. J'espère que on va essayer de gagner encore quelques positions et ce serait pas mal de terminer dans les points.
Et pour vous, c'est le combienième de café?
J'en ai bu qu'un. J'étais debout depuis 3 heures, donc je viens de sortir à 9h30, donc voilà.
Bon, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et bonne fin de course évidemment à toute l'écurie Peugeot et merci à Lemuel qui est en inside. Évidemment, vous pourrez découvrir ça sur le Twitch d'RMC Sport. Et puis on prendra des nouvelles évidemment de cette course un petit peu plus tard avec notre commentateur Morgan Maury. Hier, Marcus Thuram a changé de braquet sur l'engagement des Bleus.
RMC, le bras de fer GG.
J'ai appris ça après le match contre le Canada et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense qu'il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas.
Le séisme politique que nous vivons est en train de provoquer des répliques en Allemagne, où se trouve actuellement l'équipe de France de football. Depuis le début de la semaine, les Bleus présents en conférence de presse sont invités à s'exprimer sur la dissolution de l'Assemblée nationale et l'arrivée peut-être au pouvoir de l'extrême droite. Jusqu'à présent, vous l'avez entendu hier, les cadres de l'équipe de France appelaient à l'engagement citoyen. Ousmane Dembélé, Olivier Giroud.
La sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Comme j'ai vu, je crois qu'un Français sur deux ne vote pas et je pense qu'il faut se mobiliser à aller tous voter.
Si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. C'est le plus important parce que un taux d'abstention de presque 50%, c'est pas normal. Et je vais pas donner de précision sur mes tendances politiques ou quoi que ce soit. Je suis là pour en parler football et voilà, c'est tout.
Une bascule a donc été opérée hier avec cet appel de Marcus Thuram. L'engagement des sportifs, des footballeurs, est-ce que ça peut changer quelque chose? Dans le coin gauche, la team oui, Marie Martineau, Simon Dutin, Marion Bartoli. Dans le coin droit, la team non, il est tout seul mais il sait se défendre, Julien Beneteau. Alors, juste une précision à vous donner, chers auditeurs, et pour vous les GG. Évidemment, le nouveau Front Populaire a apprécié cette sortie. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti Communiste, a même envoyé une lettre au bleu. Je sais qu'il n'est pas facile de prendre position. Vous avez plus à perdre qu'à gagner. Il appelle les joueurs à se mobiliser pour faire obstacle au RN. L'heure est trop grave pour se murer dans le silence. Évidemment, le RN n'a que très peu goûté aux mots de Marcus Thuram. Preuve peut-être que cette parole d'un joueur de l'équipe de France peut avoir du poids. On vous a posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Et pour l'instant, Julien Beneteau est tranquille. C'est non à 68%, 32%. Oui, ça peut changer quelque chose. Marie, Simon, Marion, vous avez du boulot. Marie Martineau, pourquoi oui?
Alors, j'étais dans le camp hier de dire que c'était pas, ils ne devaient pas le faire. Hein. C'est pas une obligation, évidemment, et c'est pas forcément leur rôle. Maintenant, je pense que s'ils le font, ça a un impact. Et la preuve en est, c'est qu'on en reparle aujourd'hui. Tu as décidé d'en reparler. Je crois qu'ils ont quand même beaucoup d'écoute et que ils pourraient aller chercher justement les dernières personnes qui se sentent très très loin de la politique, qui se sentent oubliées, qui pour des raisons que je conçois totalement ne vont même plus voter par dédain, parce qu'ils ont l'impression d'être très très loin des répercussions que ça pourrait avoir. Et je crois que peut-être parce qu'ils sont hyper fans d'un tel ou tel athlète ou d'un tel ou tel joueur, ils pourraient se dire ok, si vraiment ce mec-là dit qu'il faut y aller, et ben je vais me sentir de la cause et je vais à épouser la cause. Voilà.
Ok, ça peut avoir une résonance, c'est ce que tu nous dis. Ça peut avoir un poids. Julien, t'y crois pas?
Non, c'est louable, c'est utile, c'est courageux, ce que dit Marcus Thuram. Quand on connaît aussi l'engagement de son papa, on n'est pas très surpris et tant mieux. La question, c'est est-ce que ça peut changer quelque chose? Je suis pas sûr que ça convainque les derniers indécis. Et en fait, ça ne fera pas retourner l'électorat du Rassemblement National, qui est un électorat très, comment dire...
extrême.
Ouais, très extrême. Donc,
et très solide aujourd'hui, c'est ce que tu veux dire.
Bah, ils vont voter, eux. Eux, ils y vont. Et ils y retourneront. Et c'est pas parce que tout le monde va parler qu'ils vont pas y aller ou que ça va les faire changer d'avis.
C'est vrai.
Donc, il faut aller voter, il faut qu'il y ait moins d'abstention, ça c'est sûr. Mais c'est en ça que je dis non, dans le fait que ça ne retournera pas certains électeurs du Rassemblement National de savoir que Marcus Thuram ou qu'il y ait beaucoup de sportifs qui s'élèvent contre, à juste titre, contre l'extrême droite et le Rassemblement National.
Mais tu vois, Julien, moi j'ai bon espoir que il y a une grande partie des gens qui ont voté Rassemblement National qui ne soient pas forcément des gros racistes, oui. Complètement demeurés, tu vois, et qui seraient justement
tous
peut-être
les électeurs du Rassemblement National ne sont pas racistes ou fascistes. Tous les racistes et les fascistes votent Rassemblement National.
On ne changera pas, tu as raison.
Mais je ne sais pas si ça a un impact sur cela pour leur faire changer le vote. C'est ça mon.
Là où je suis. Okay, c'est là où je suis. Simon Dutor.
Moi, je suis exactement comme Marie. Moi, je disais hier, on avait une conversation en rédaction. Autant tu ne peux pas reprocher aux sportifs de ne pas se prononcer, ça ne veut pas dire qu'il faut leur interdire de se prononcer parce que moi j'en reviens à un concept que j'utilise souvent quand on parle de sport de haut niveau et de résonance, c'est la force de l'émetteur. Voilà, il y a beaucoup de sportifs, on parle souvent de l'exemplarité, on parle souvent du discours, du devoir de réserve ou au contraire de la nécessité de s'exprimer sans faire d'amalgame parce que on était en train d'en parler parmi les couches populaires. Il y a quand même une base de gens qui, par déception, par frustration, par la perte d'un horizon d'espoir, un horizon culturel qui est famélique parfois, un horizon affectif, famélique, beaucoup de gens pour qui le sport en fait constitue l'essentiel de cet horizon qu'ils ont face à eux le matin, pour qui le sport constitue l'essentiel de ce qui remplit leur journée, leur imaginaire, leurs attentes, leur plaisir, qui fait leur bonheur dans la vie. Et à ce titre-là, je pense que la parole d'un sportif, elle peut compter. Voilà, pour un mec qui vote Rassemblement National parce que il a envie de foutre un pain dans l'Assemblée et qu'il en a ras-le-bol qu'on parle plus de ses problèmes, je pense que un sportif qu'il admire, s'il lui dit écoute Coco, tu fais une bêtise là tu nous envoies dans le mur, je pense que ça a plus de résonance que n'importe quel responsable politique qui vient avec son costard et qui s'invite au JT de 20h ou de 13h, parce que il y a encore une fois une différence dans le discours, dans la sémantique, dans la grammaire que plein de gens, dans laquelle plein de gens ne se reconnaissent plus. Mais quand un mec qui te fait sauter de ton canapé en marquant des buts te regarde et te dit mec, tu vas pas déconner quand même, tu vas pas nous foutre ces mecs là au gouvernement, je pense que ça peut avoir un impact et que ça doit avoir un impact.
Ok, est-ce que tu viens de retourner Julien Bennett?
Retourner non, mais
je l'ai vu, il est en train de...
Moi j'ai plus le bras de fer derrière.
Très convaincant et enfin.
T'as envie d'y croire, mais tu doutes.
Exactement. Non, j'espère tellement qu'il a raison. Mais en tout cas, il a donné tous les argumentaires pour donner raison. Et effectivement, je perçois chez les gens, comme il dit, où les horizons sont bouchés à tout point de vue. Le sport est un peu ce qui rend heureux les gens. Mmh. Et s'il y a un idole ou quelqu'un qui l'admire et qui lui dit ouais. Comme tu dis, avec les mots du sportif et pas ceux des politiques à l'Assemblée. Voilà, ça déconne. Peut-être, là j'arrive à comprendre qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent changer.
Mais allez, peut-être,
c'est bon, on remballe.
Et je vais aller voir Marion Bartoli, peut-être que ça n'a pas non plus la même résonance que si c'était, sans faire injure à Marcus Thuram, Kylian Mbappé qui s'exprime sur le sujet. Là, pour le coup, ça aura peut-être plus d'impact, plus de poids. Je sais pas, Marion.
Alors, je vais pas répéter ce qu'a dit mon collègue Simon parce qu'il a dit tellement mieux que moi. Je suis complètement alignée, mais à 1 milliard de % avec ce qu'il vient de dire. J'aimerais juste rajouter, si tu peux me permettre, Simon, quelques petits points. En particulier, justement, ce que Marie nous a mis en exergue ce matin dans le groupe WhatsApp qu'on a, c'est l'appel du monde du sport, justement, contre l'extrême droite, avec une pétition à signer, une tribune des sportifs et des sportifs professionnels qui a été signée par des sportifs de renom, des ex-athlètes, mais on les a tous en tête, comme Yannick Noah, comme Marie-José Perret, comme Brahim Asloum, comme Stéphane Diagana, je ne vais pas tous les faire, la liste est très longue, mais je pense que s'il y a un consensus de très grands sportifs qui nous ont fait rêver dans nos imaginaires communs, quelles que soient nos dates de naissance et quelle que soit la manière dont on consomme le sport aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir vraiment une prise de conscience globale, et je l'espère du plus profond de mon cœur. Quand après je prends des exemples, même outre-Atlantique, avec ce qu'a fait LeBron James ou Lewis Hamilton pour Black Lives Matter, avec Tommy Smith, avec ce fameux point levé sur le podium des JO, ouais. Je crois qu'il y a des images tellement fortes qui nous ont tous marqués, qu'on voit à quel point, lorsque le monde du sport se soulève, surtout aujourd'hui avec la puissance des réseaux sociaux, et tu l'as dit, j'y sais effectivement, avec Kylian Mbappé qui a quand même une caisse de résonance mondiale et immense, je pense qu'on peut faire bouger les choses. Après, ça reste mon point de vue, je suis pas sûre d'avoir raison, mais en tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur, parce que je crois que là, vraiment, il faut qu'on se mobilise.
Alors hier, la Fédération Française de Football a publié un communiqué, parce qu'il fallait mettre quelque chose au clair. On avait évoqué hier les footballeurs et les joueurs de l'équipe de France qui avaient été interrogés en conférence de presse, ils ont dû à un moment donné sortir du bois. Depuis le début de la semaine, les joueurs de l'équipe de France ont pratiquement tous été interrogés lors de leur passage en conférence de presse sur les conséquences des résultats issus des urnes à l'occasion des élections européennes. Chacun d'entre eux a pu exprimer librement, selon ses propres convictions et sa propre sensibilité. Et la fédération ajoute qu'elle appelle au vote également, comme l'a fait quelques joueurs, notamment Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, vous l'avez entendu. Mais elle ajoute, cette Fédé, elle souhaite également que soit comprise et respectée sa neutralité en tant qu'institution, ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité. Il convient à ce titre d'éviter toute forme de pression et utilisation politique de l'équipe de France.
Mais là, ils sont obligés de sortir des parapluies. Mais bien sûr, ils sont obligés de sortir des parapluies.
De part et d'autre, c'est impossible. Il y a forcément de la récupération.
Oui, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Maintenant, je pense que les gens sont pas dupes non plus et qu'ils se rendent bien compte que c'est de la récup. Mais je trouve que la Fédé a bien fait de sortir ce communiqué qui est plutôt bien écrit et qui est plutôt apaisant. Et ils sont dans leur rôle de vouloir protéger aussi leurs athlètes. Le but de la Fédé aujourd'hui, c'est quand même que l'équipe de France soit championne d'Europe.
En gros, voilà, ils se sont exprimés. Maintenant, laissez ce débat aux autres.
C'est bien.
C'est un peu ça. Ok, Simon Dutin.
Juste pour compléter ce que je disais, l'appel à aller faire son devoir citoyen. Évidemment, il est nécessaire, il est justifié. En revanche, il faut évidemment mettre des barrières en disant nous, on vous dit pas pour qui voter, mais on sait évidemment vers quoi tout cela est tourné. Ça peut faire changer d'avis certains qui ont un vote de défiance, de contestation par rapport à aux institutions au pouvoir en place. Ça peut surtout inciter la moitié du pays qui n'est pas allé voter pour aller faire son devoir, et en ça c'est fondamental.
J'aimerais aller voir quelqu'un qui va disputer les JO quand même en tant que capitaine de l'équipe de France de tennis féminine, c'est Julien Beneteau, avec un nouveau gouvernement au pouvoir, peut-être l'extrême droite. Toi, tu as des joueuses à gérer. Qu'est-ce que tu vas leur tenir comme discours si une joueuse, par exemple, a envie de s'exprimer politiquement lors des Jeux Olympiques? Comment ça peut se passer quand on est acteur comme des JO?
Faut pas qu'elle fasse ça, hein, si tu veux la garder.
Il faut lui montrer le règlement, elle va prendre une sanction.
Mais vous allez être vigilant à ça?
Sûrement, on va attendre le résultat des élections. Mais c'est sûr que ça me paraît inconcevable, improbable d'accueillir les Jeux Olympiques et d'avoir Bardella en Premier ministre. Enfin, c'est inconcevable, c'est impensable. Mais et moi, je suis pas pour brider la parole de certaines de mes joueuses. S'il y en a qui veulent s'exprimer, elles le feront. Et puis on verra. Mais nous, notre rôle, c'est de leur expliquer ce à quoi elles peuvent s'exposer entre guillemets si elles le font. Mais tout le monde a le droit de s'exprimer, pour moi.
Je voudrais vous faire écouter Florent Manaudou, qui est au championnat de France de natation. Il a été justement interrogé sur cette situation politique. Est-ce que ça peut perturber les athlètes olympiques? Réponse.
Ça me perturbe dans mon sport, non. Je trouve ça dommage. J'ai l'impression, en fait, qu'on est devenu un peu une télé-réalité au niveau politique. Déjà que c'était un peu compliqué de faire confiance aux politiques après toutes ces années, mais que ce soit à droite, à gauche, tout le monde se tire dans les pattes et tout le monde veut son propre poste. Et je trouve ça un peu dommage de pas se battre pour ses idées, mais de se battre pour avoir un siège à l'Assemblée.
Et voilà pour les propos de Florent Manaudou, qui va un petit peu plus loin. Il appelle pas au vote ni rien. Il fait un constat de notre situation politique. Ouais,
la cause des gens qui votent, par exemple, Front National, RN, par dégagisme, par pur dégagisme, par envie de dire, il faut que ça change, il faut qu'on renverse, il faut qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière et tout. Et je suis pas sûre que ça serve vraiment,
la cause-là.
De toute façon, ça sera un devoir civique, d'aller voter. Il faut absolument qu'il y ait un acte d'amour pour notre pays. Que ce devoir civique il soit réalisé. Après, le peuple s'exprimera avec les votes, on verra bien.
Très bien, mais vous les sportifs, vous êtes présents en conférence de presse, et ça a été le cas avec les joueurs de l'équipe de France, c'est encore là le cas Florent Manaudou, il ne convoque pas une conférence de presse pour parler de politique. Ce sont les journalistes qui posent des questions, donc eux répondent. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de s'engager, selon vous, vous qui avez été athlète olympique, ou ils sont un peu obligés de répondre? Vous voyez ce que je veux dire?
Ça dépend
de chacun. Ça dépend des convictions de chacun.
Il y en a qui naturellement ont envie de s'engager, d'autres qui ont envie de répondre un petit peu en bottant en touche, en disant voilà.
Ouais, il y a des joueurs de l'équipe de France qui l'ont fait, en disant moi je suis là pour parler que de foot. Ouais. Mais par exemple, à Marcus Thuram, est-ce qu'il avait vraiment envie de faire ça?
Ouais, mais ça vient vachement de comment tu as grandi,
de ce qui perçoit les choses aussi, de ce qu'ils vivent. On en revient toujours à la même chose. Je pense qu'Olivier Giroud, dans son quotidien, il n'a pas vécu la même chose qu'un Marcus Thuram aussi.
C'est clair.
Marcus Thuram, il joue en Italie. On voit ce qui se passe dans les stades en Italie. Les joueurs de couloir nord sont quand même souvent insultés, pris à partie, plus qu'un Olivier Giroud ou quoi que ce soit. Donc forcément, ça façonne une mentalité, un personnage et des convictions et une manière de réagir.
Bon, reparlera en tout cas évidemment de ces conséquences politiques sur le monde du sport, à n'en pas douter dans les grandes gueules du sport, car nous sommes à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques et il va se passer beaucoup de choses d'ici là. 10h27, on se retrouve dans quelques instants pour parler de sport et de grenades envoyées par Raymond Domenech au futur coach peut-être de l'Olympique de Marseille. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec lui. On parle de Zerbi, de l'Olympique de Marseille et de Raymond Domenech. Savoureux mélange, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martino, Marion Bartoli, Julien Beneteau, Simon Dutin. Dans 10 minutes, restez bien avec nous, un zapping des GG très chargé. J'ai du rugby avec La Rochelle qualifiée pour les demi-finales face au Stade Toulousain. J'ai une incroyable histoire au sein de la Fédération Française d'Athlétisme. J'espère que ça va vous intéresser. Et puis évidemment, j'ai du Mathieu Pavon, du golf, deuxième de l'US Open. Ce soir, c'est le dernier tour et ça peut être un moment historique pour la France, pour le sport, pour le golf. Faites-nous rêver, Mathieu. Allez Mathieu Pavon, j'espère que ça vous intéresse. Hein. Mais je suis confortable, allez, j'ai Simon Dutin avec moi et j'ai Julien Bennett, deux amoureux de golf, donc ça devrait bien se passer. Un petit point sur la course des 24 heures du Mans avec Morgane Maury en direct du Mans. Salut Morgane, rebonjour Morgane. Comment ça se passe? Beaucoup de safety car, on l'a dit cette nuit.
Oui, une nouvelle pour la Cadillac numéro 3 qui rentre au stand. Problème moteur, la course est sous régime de safety car. Le safety car s'est écarté, ça va repartir dans un instant. Les drapeaux verts vont être agités. Un malheur pour Cadillac, mais un bonheur de l'autre côté puisque la numéro 2, celle pilotée par le néo-zélandais Bamber, est en tête devant la Porsche numéro 5 de Malowiecki et la Ferrari numéro 83 pilotée par Schwarzman. C'est en train de repartir pour ces 24 heures du Mans. Encore 5 heures et 27 minutes, le trio tête Cadillac, Porsche et Ferrari. Rien n'est joué.
Merci Morgane. L'OM a enfin, peut-être, trouvé très certainement son nouveau coach. Jeudi, RMC vous annonçait que Roberto De Zerbi avait dit oui à l'Olympique de Marseille. Reste désormais à trouver un accord avec son club. Brighton, un sacré coup pour l'OM, pour un coach qui était convoité, par les plus grosses écuries européennes, notamment Chelsea ou le Bayern Munich, malgré son palmarès très léger. Pour Raymond Domenech, c'était sur la chaîne L'Équipe, tout ça, c'est du flan, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
J'avais un beau projet à faire, c'était avec Habib Bey, parce que le club est en reconstruction. Il n'y a pas de certitude, mais c'est pas la peine de nous faire rêver en disant qu'il y a un mec qui va rester 3 ans. Ils ne veulent que des entraîneurs étrangers, parce que c'est des jolis noms. Bravo. De Zerbi, il n'a pas un palmarès supérieur à beaucoup d'entraîneurs. Il est derrière tous les gros, il est derrière les autres, il est le premier du peloton, c'est Reims. Voilà. Bravo, bien joué, c'est sa place.
Voilà, c'est sa place. Brighton, c'est Reims. Bravo De Zerbi. D'accord ou pas d'accord avec Raymond Domenech? Simon Dutin.
Pas d'accord.
Julien Beneteau.
En partie d'accord.
En partie d'accord. Marie Martineau.
Pas d'accord.
Marion Bartoli.
Pas d'accord.
Pas d'accord. Julien, j'arrive dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Marseille, Florent Germain, actuellement en Allemagne pour l'Euro, mais il suit de près l'actualité marseillaise. Florent Germain, salut Flo.
Salut JC, salut à tous.
Salut Flo. On en est où du dossier de Zerbi?
Écoute, tous les voyants sont au vert. Il y a eu un accord de principe, on le rappelle, c'était dans la nuit de mercredi à jeudi. En fait, la petite histoire, c'est que mardi, alors que l'OM était notamment en train de négocier avec Sergio Contessao, De Zerbi a fait un appel du pied, il a tendu la perche aux dirigeants de l'OM via ses représentants, disant qu'il était prêt à faire un effort salarial, qu'il était très motivé à l'idée de venir, pourquoi pas, à Marseille et surtout de s'inscrire dans un projet de 3 ans, parce que c'est un coach qui aime bien construire quand même sur une certaine durée, voilà, imprimer une certaine touche, une certaine patte dans ses effectifs. Et voilà, De Zerbi, il y avait déjà eu Longoria qui l'avait un petit peu dragué il y a 2 ans quand Sampaoli était parti. Cet été, quand il a su qu'il allait quitter Brighton, Pablo Longoria lui avait dit, mais sans trop d'espoir, qu'il aimerait bien l'avoir sur le banc, parce que Longoria l'imaginait justement signer dans un gros club en Angleterre, et surtout au niveau salarial, c'était quasiment intouchable pour Marseille. En tout cas, il y a eu un accord quasiment également trouvé avec Brighton, parce que malgré sa volonté de départ, il faudra verser environ 5 ou 6 millions d'euros. Donc il faut s'attendre, je pense, à une officialisation de Roberto De Zerbi la semaine prochaine du côté de l'OM. En tout cas, l'Italien travaille déjà sur l'effectif marseillais et on a tourné à l'OM la page Sergio Contessao.
Eh ben, merci beaucoup Flo Germain pour toutes ces précisions. Toi qui suis évidemment l'Euro, mais l'actualité marseillaise, c'était important de vous donner le dernier point. D'ailleurs, c'est à retrouver tout ça sur rmcsport.fr. D'accord ou pas d'accord avec Domenech? Plutôt d'accord, Julien Bennett. Pourquoi?
Parce que pour l'instant, alors, je suis assez, hypé
par cette venue pour voir ce que ça va, pour voir ce que ça va donner. Je suis curieux. Mais aujourd'hui, voilà, on me vend De Zerbi, les grands clubs, il était en contact. Ok, il était en contact, mais il a pas signé. Brighton, je suis d'accord avec Domenech sur l'analyse de Brighton. Ils ont fini 8e, 10e. Ok, ils sont derrière. Le palmarès, il est néant. Pareil à Sassuolo. Il paraît que ça jouait super bien à Sassuolo. Je suis allé regarder les classements de Sassuolo à la fin de la. Pareil, c'est pas mieux que la 8e place. Donc, là où je suis d'accord avec Domenech, c'est je suis, dubitatif pour l'instant et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis pas d'accord avec lui sur le choix d'Abibay. Pourtant, c'est quelqu'un que j'adore, mais je suis pas sûr qu'Abibay aurait fait mieux. Et en fait, là où il y a beaucoup pour moi de points d'interrogation avec De Zerbi, c'est quel joueur il va avoir, parce que on en revient toujours à la même chose. La réaction des supporters. On sait qu'à Marseille, parfois, ils sont pas très lucides. 6 millions d'euros d'indemnité, plus quand même un gros salaire, même s'il fait un effort salarial.
Oui, il faut que les 6 premiers mois se passent bien, quoi.
Voilà. Et c'est toujours pareil. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, il faut vraiment attendre pour voir ce que ça va donner. Et ça, voilà, Tudor, c'était pareil, pas le grand palmarès. Une bonne saison. Moi, j'ai adoré le style, et la saison. On va voir si De Zerbi est capable de faire la même chose.
Ok, le côté 3 ans, ça t'inquiète un petit peu.
Non, mais 3 ans, jamais.
T'y crois pas.
On sait très bien.
Marie Martineau.
Ouais, moi, j'ai l'impression d'un Domenech, la France aux Français. Tu sais, il faut que, dans les clubs français, on ait des coachs français.
C'est pas la première fois qu'il tient ce discours,
hein, lutter. C'est ça, exactement, bien sûr.
C'est pour ça qu'il nous saoule.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas vraiment de discussion possible à trancher entre Abibay et De Zerbi. Enfin, De Zerbi, il a quand même des références à l'international, il a fait des exploits, il a trouvé des clubs qui étaient pas top et les a vraiment remontés. Donc, et il n'y a pas que Brighton, évidemment. Abibay, ok, c'est super, il est sur une belle dynamique, mais bon, on est quand même sur un coach 3e division, quoi. Donc, pour moi, l'OM, il n'y a absolument pas nécessairement de discussion à avoir et je ne comprends pas pourquoi Domenech revient là-dessus. Enfin, je ne suis pas
ça
d'accord avec
son credo à Domenech. Il a toujours défendu les entraîneurs français, c'est son truc, et là-dessus, c'est bon, ouais. C'est lourd. Il n'y a pas de souci, mais effectivement, pour l'instant,
on parle d'un OM qui prétend peut-être rejouer en Coupe d'Europe et tout. Enfin, voilà,
c'est mon Dutin.
Moi, je rejoins ce que disent mes camarades, la cocarde, évidemment, la main sur le cœur, la Marseillaise. Et alors, et nous, on n'a pas des bons entraîneurs en France, peut-être, on ne sait pas les former. Ça fait 25 ans qu'il nous sort le même discours. C'est absolument affligeant. Il part du principe que la Première Ligue et la Ligue 1, donc, ont le même niveau, la même densité d'équipe. Reims, c'est Brighton, sérieusement, monsieur Domenech.
C'est clair.
Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on fasse des rencontres entre Reims et Brighton, qu'on regarde ce que ça donne au final, De Zerbi, au-delà du fait que moi je stigmatise souvent ce que j'aime bien appeler les hipsters du foot, tu sais, qui nous survendent, et là je rejoins Julien, des mecs parce que ils ont vu 3 matchs où ça joue pas mal à la balle, au ballon, et du coup bon, on crie au génie. Bon, il y a quand même pas de fumée sans feu. De Zerbi, c'est il est brandé par Guardiola quand même, qui est
exactement
pas n'importe qui, comme un des entraîneurs les plus excitants, si ce n'est le plus excitant à l'heure actuelle. Ok, hein, tu peux pas non plus faire des miracles. Il a perdu Caicedo et Enzo Fernandez, deux joueurs fondamentaux de sa saison dernière qui sont partis à Chelsea. Il n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais c'est un mec qui a une vision, un style qui était convoité dans beaucoup de clubs en Europe. Je trouve que c'est une chance exceptionnelle et pour l'Olympique de Marseille et pour la Ligue 1.
Ma Marseillaise, Marion Bartoli, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
J'ai envie de te dire, avec Simon, ce matin, on est totalement liés.
Ah oui, Marion, qu'est-ce qui nous arrive?
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais je suis complètement alignée quand on entend ce que dit Pep Guardiola sur lui, l'un des entraîneurs les plus influents de ces 20 dernières années. Roberto De Zerbi, c'est quand même un jeu léché basé sur la possession de balle. On sait très bien qu'à Marseille, on a quand même plutôt le beau jeu. On a vécu une saison absolument catastrophique. On s'est ennuyé, pour pas dire autre chose, au Stade Vélodrome. Mais un nombre de fois et de matchs et de tout au long de la saison, c'était absolument horrible. Donc, si enfin on a un coach qui est capable d'emmener ce club sur la durée, je rappelle quand même que l'Olympique de Marseille, sur ses 2 ans et demi, ces 2 dernières années et demie, c'est 6 coachs en comptant le coach intérim, mais bon, je le compte quand même, c'est 6 coachs en 2 ans et demi. Donc à un moment donné, il va falloir quand même se stabiliser, être capable d'avoir quelqu'un qui ait une cohérence de jeu, qui amène une base de jeu qui soit importante. Brighton, il a quand même amené 6e de première ligne, qui a été le meilleur classement de cette équipe de toute son histoire. Comme l'a dit Simon, ils ont perdu des joueurs essentiels qui effectivement l'a fait un petit peu descendre et chuter au classement, mais par rapport à, aux autres entraîneurs proposés, il y a quand même pas photo, mais il y a pas photo. Et ce que je trouve quand même assez important et un coup de maître de la direction, et j'étais loin d'être encensé à la direction tout au long de la saison, hein, vous écoutez, c'est quand même d'être capable d'attirer un entraîneur comme ça en n'étant même pas européen.
C'est ça, ça, on l'a pas
ça
vu
veut
venir.
Dire. Mais oui, donc ça veut dire quand même que l'Olympique de Marseille, ce nom parle à beaucoup d'entraîneurs par l'histoire de ce club, et que aussi s'il arrive à faire venir cet entraîneur-là, on pourra, je l'espère, faire venir des joueurs aussi pour moi, de plus haut niveau, parce qu'ils seront avec un intérêt pour le club qui sera multiplié, même si malheureusement l'Olympique de Marseille ne jouera pas de compétition européenne. Donc ils seront fascinés par le projet, qui seront capables de se dire, même si je joue pas en Europe la première saison, je vais rester sur la durée.
C'est toute l'inconnu, hein.
Évidemment. Pour moi, s'ils font venir cet entraîneur, ils seront capables d'avoir un mercato de meilleure qualité.
Voilà, mais avec quelle équipe pour Roberto De Zerbi? Vous l'avez pointé, Marion et Julien, vous les Marseillais de cœur, hein, vous qui aimez cette équipe. Bah maintenant, il faut construire quelque chose avec cet entraîneur. Toutes les dernières informations sur l'OM à retrouver sur rmcsport.fr. Mais GG, hein, on s'en fout pas, de toute beauté. J'ai beaucoup d'informations à vous donner. Ce sera à vous de trancher, notamment une histoire assez marrante, assez hallucinante, marrante au second degré, de la part de la Fédération Française d'Athlétisme, qui vient quand même de réaliser de très beaux championnats d'Europe. Eh ben non, on se remet dans la nasse. Pour quelle raison? À tout de suite sur RMC, j'ai du Renaud Lavillenie, et surtout, surtout, j'ai du golf. Mathieu Pavon, comment Mathieu? À tout de suite sur RMC.
Je suis naturellement méchant. Je n'ai pas à me forcer. Je suis le grand méchant loup. Voilà, bon, basta.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h46, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Marie Martineau, Marion Bartoli, Julien Beneteau. À partir de 11h, on ouvre le dossier Novak Djokovic. L'ère Djoko est-elle terminée? On pose cette question cruciale, indispensable pour nous deux, tennisman, tenniswoman évidemment. Mais je sais que Simon et Marie, vous avez un avis sur cette question. C'est le boulot que je vous demande en tout cas. Allez, tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on passe l'information. La première à vous donner, c'est la Fédération Française d'Athlétisme qui fait du zèle. On s'en fout pas. Simon Dutin.
J'ai très envie d'écouter mes camarades.
Ok, ça veut dire quoi? Tu t'en fous quand même?
Non, mais...
Marie Martineau.
Non, je m'en fous pas.
Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Julien.
Ben, je vais écouter parce que je connais pas l'histoire.
Alors, c'est une information déroutante que je vais vous livrer. Ah. Et d'ailleurs, Marie nous en parlait hier dans l'émission. Vous vous souvenez de l'histoire des oubliés pour les championnats d'Europe à Rome? Il y a deux semaines, on apprenait que la Fédé d'athlètes française avait oublié d'inscrire deux de ses athlètes pour la compétition. Un oubli administratif qui avait fait rire jaune, on en avait parlé dans cette émission, et qui faisait un peu mauvais genre. Nouveau rebondissement ce week-end. Au moins trois athlètes français ont reçu un courrier de la Fédé leur indiquant l'ouverture d'une procédure disciplinaire. La Fédé leur reproche des tweets et des retweets. Parmi ces sportifs, Hugo Hay, le demi-fondeur, nous l'avons contacté hier, voici ce qu'il dit. Je me suis dit, oula, j'ai dû dépasser les bornes, dire quelque chose qui a dépassé ma pensée. J'ai tout de suite regardé les preuves apportées dans le courrier et j'ai rigolé. Je me suis dit que ça irait car personne peut me suspendre avec ça, mais j'étais outré et choqué qu'ils osent faire ça. Hugo Hay a par exemple retweeté un article qui parlait de l'affaire, ou encore retweeté un message de Simon Bédard, l'un des athlètes oubliés, sur la possible fin de carrière à la suite de cette erreur. On est chez les fous, non? Marie Martineau.
On parle souvent de la gestion des fédérations et puis on en fait des caisses, mais à juste titre, parce que là, je veux dire, il faut quand même faut contextualiser. On a un DTN qui décide d'employer, tu sais, les athlètes, on signe souvent une charte de déontologie, en fait. Et donc, ils s'appuient sur le fait de dire, ces athlètes-là n'ont pas respecté la charte qu'ils ont signée. Donc, on va les convoquer en commission de discipline, si tu veux. C'est quand même... Donc c'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre des gens à la Fédé de dire oui, on va tous se rassembler autour d'une chaise et on va juger ces garçons-là.
On a fait une erreur. Nos athlètes se sont un peu moqués de nous, notamment Sacha Zoya, qui est l'une des stars du
100 mètres. Exactement, j'allais le dire.
Bah vas-y, Marion. Sur
Instagram, ils sont moqués et puis ça a été un embrouillon. Il a fallu qu'il y ait des personnes très très haut placées qui aillent discuter avec la Fédération européenne d'athlétisme pour réintégrer ces athlètes. Ça a été le cas, mais je te dis pas, ça a pris une semaine de diplomatie sportive musclée. Enfin, alors quoi, on veut que les athlètes n'aient jamais le droit de rien dire, il faut suivre et s'incliner devant toutes les décisions fédérales, enfin même non, si
surtout quand c'est leur bêtise.
Non mais c'est quand même un truc de malade, on marche sur la tête complètement.
Marion, faut passer à autre chose, tu viens de réussir tes Europes, pourquoi tu viens te remettre ça, pourquoi t'envoies une, enfin je sais pas, je trouve ça insensé, Marion.
Non, mais pour moi, la manière dont tu as réagi, Sacha Joyeux, elle a complètement raison en disant vous avez besoin d'une secrétaire. Franchement, là, c'est honteux. On est en dessous de tout. Quand tu es une fédération et que tu n'arrives même plus à inscrire tes athlètes à une compétition, mais on en arrive où là? Non, mais franchement. C'est quand même ton rôle.
Ceux qui se sont un peu moqués de toi,
exactement,
un peu taquinés, tu viens leur mettre une lettre disciplinaire.
Mais totalement. Mais une réaction normale serait de dire, écoutez, on est désolé, on a fait une erreur, on vous promet que ça se reproduira plus, mais à coup pas complet, et puis on essaye de repartir sur une page blanche. Mais de dire, faut pas se moquer de nous. Parce que vous comprenez, on est une fédération, donc on est au-dessus de vous. Donc quoi qu'il arrive, vous avez qu'à faire une seule chose, c'est fermer votre bouche. Je suis désolé, c'est honteux. J'ai pas d'autres mots, c'est honteux. Ils sont en dessous de tout.
Simon.
En quelques mots, surtout ça rajoute, tu sais, sur si tu dézoomes un peu sur la photo, tu sais, du père Larigueur, la fédé d'athlétisme, parce qu'on se souvient de cette histoire des minima, tu sais, pour les mondiaux 2023. On touche pas une cacahuète depuis 30 ans dans les grands championnats internationaux, mais on avait décidé de faire des minima encore plus exigeants que les minima de la fédé internationale, du coup privant plein d'athlètes de la possibilité d'aller
pour les mondiaux en Oregon,
un peu d'expérience dans les mondiaux. Donc on ne plaisante décidément vraiment pas à la fédé.
Ah oui. Hein. Et puis moi, depuis, je me moque plus du tout de cette fédé. Hein.
Non, mais ça m'a donné envie de ne pas faire d'athlétisme, du coup.
Bah, oui. T'avais besoin de ça, Marion?
Oui.
Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Bah, justement, encore de l'athlé. Et c'est du sport. Encore raté pour Renaud Lavillenie. On s'en fout, on s'en fout pas. C'est mon Dutin.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas, Julien Bennett.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas, très bien. Marie Martineau.
Je m'en fous pas.
Marion Bartoli.
Avec une conviction.
Marion.
Maintenant, je m'en fous pas, ça m'attriste beaucoup.
Bon, vous le savez, Renaud Lavillenie, le perchiste français, est en quête des minima olympiques. Il n'a pas réussi à franchir de barre hier au meeting international La Perche aux Étoiles, c'était au Bourget. Il n'a pas passé une barre à 5,60 m et le champion olympique de Londres a ressenti en plus une gêne au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Il avait même été opéré de cet endroit-là en septembre dernier. Il lui reste désormais deux chances seulement pour décrocher son billet pour les JO. Ce sera le week-end prochain à Toulouse ou alors lors des championnats de France, le 30 juin. Voilà. Sinon, après, c'est rideau. On écoute Renaud Lavillenie.
Difficile d'être satisfait d'un zéro. Franchement, j'y croyais vraiment dur comme fer. Mine de rien, c'est des conditions qui n'ont pas été si faciles que ça. Je suis pas complètement à côté de la plaque. Hein. J'ai des sauts qui partent pas trop mal. Il y a de la hauteur. Là où je m'en veux, c'est de rater complètement mon premier essai. J'ai pas l'aéropère, je suis un peu perdu. Je suis un peu surpris par rapport à ça. Derrière, le dernier essai qui rate, mais qui est pas non plus raté franchement. Ça fait partie du jeu. Hein. C'est la perche, c'est jamais simple. Il y a des choses qui sont pas négatives du tout. Faut continuer d'avancer, quoi.
Bon, il a un discours conquérant en tout cas, Julien.
Ouais, il reste très positif, conquérant, et je crois qu'il lui reste plus que deux.
Ouais, je viens de le dire, ouais. Tu m'écoutes plus. Voilà. Tu m'écoutes plus, Julien, tu m'écoutes plus, oui. Il en reste que deux, ouais.
Et forcément, il y a l'horloge qui tourne, ça arrive vite, donc ça va rajouter un peu de pression. Et c'est pour ça que moi je suis un peu inquiet, et je m'en fous pas, parce que il a été champion olympique à Londres, qu'on a envie de le voir ici à Paris, quoi. Donc, j'espère qu'il va réussir à franchir cette barre, qui va lui permettre de se qualifier, mais c'est compliqué.
Je crois qu'il lui reste deux occasions quand même.
Ah bon? Attends, je vais vérifier quand même. On va vérifier. Marie, rapidement.
Eh bien, le minimum à atteindre, c'est 5,82, une barre à 5,82.
Exactement.
Et il vient de rater 3 fois 5,60. Ce qui fait.
Non, mais surtout, la barre de 5,82, il a effacé plus de 120 fois dans sa carrière. Et son record absolu, c'est 6m16 en 2014.
Ouais, mais moi, si j'avais continué à faire du ski, j'aurais pu dire pendant des années, j'ai fait quelques 1080 dans le pipe, mais j'ai
pas. Non, mais
plus,
tu vois, on a quand même envie qu'il y arrive, tu vois, c'est quand même un des plus grands champions français qu'on a. On a vraiment envie pour lui qu'il y arrive.
C'est de dire que, voilà, tout le monde n'y va pas. Ça fait partie de l'histoire aussi.
Mais bon. On lui souhaite le meilleur, on espère qu'il va y arriver.
Il reste deux chances, et en plus, il est candidat pour être porte-drapeau. Donc bon, c'est une condition sine qua non, c'est qu'il faut d'abord être déjà qualifié, et après, peut-être être porte-drapeau. Troisième information. Information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Mathieu Pavon. Ah là, on parle d'un champion là. Deuxième de l'US Open de golf, on s'en fout, on s'en fout pas. Simon, je te demande pas, je sais que ça t'intéresse. Marie Martineau.
Non, je m'en fous pas.
Ah oui, merci. Marion Bartoli.
Non, je vais te faire plaisir, je m'en fous pas.
Oui, Julien Bennett.
Oui.
Évidemment. Deuxième de l'US Open après trois tours. Mathieu Pavon s'élancera aujourd'hui en dernière partie avec nous on le connaît très bien, vous chers auditeurs peut-être un peu moins, Bryson DeChambeau, l'un des joueurs, l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il est leader avec 3 coups d'avance, hein, Bryson DeChambeau, l'américain, et notre bordelais, le Mathieu Pavon, est le premier français à s'inviter en dernière partie, donc à partir avec Bryson DeChambeau, tous les deux les derniers à partir d'un majeur depuis Jean Van de Velde au British Open. C'était à Carnoustie en 99 avec le craquage
le
craquage du 18e trou. Mais en tout cas, c'est une chance incroyable car aucun Français n'a remporté de majeur jusque-là. Simon Dutin, vas-y.
Ce serait absolument légendaire, tu l'as rappelé, ça n'est jamais arrivé. On précise aux auditeurs qui n'aiment pas trop, qui s'intéressent pas trop au golf, l'US Open, c'est un des 4 tournois du Grand Chelem, un peu sur le modèle du tennis, sauf qu'il est traditionnellement disputé sur un parcours ultra difficile qui challenge plus que tous les autres les meilleurs joueurs de la planète. Il est, quand tu regardes le classement, au milieu de tous les meilleurs joueurs du monde. Voilà, il y a un nouveau mec que les médias apprennent à connaître. La dernière partie, tu l'as dit, c'est la plus suivie par les médias. C'est celle sur laquelle il y a le plus de pression. Il va jouer contre un Américain qui va être soutenu par un public pas toujours très fair-play, pas toujours très discipliné. Ça va être un immense moment pour lui, pour gagner de l'expérience et éventuellement pour marquer la grande histoire du sport français. On est tous derrière lui.
Julien Benneteau.
Pour essayer que ça parle un peu aux auditeurs qui ne suivent pas le golf. C'est comme si Hugo Humbert était en finale de l'US Open contre Taylor Fritz. Il y a 2-7 partout, il est breaké au 5e, 1-0 au 5e, Taylor Fritz. Mais c'est ça, c'est la finale de l'US Open, voilà, face à un Américain aux États-Unis.
Alors, mais ils ne sont pas que deux, hein, parce qu'il y a d'autres mondes, évidemment, derrière.
Oui, ça peut revenir derrière, ça peut gagner, je suis d'accord. Mais en gros, voilà. Mais ça peut être une très belle page. Et en tout cas, Pavon confirme et j'espère qu'il va amener le golf français dans une autre sphère où il regarde les meilleurs joueurs du monde droit dans
les yeux. Ça avait commencé avec fin janvier, etc. Cette victoire à Torrey Pines. Là, il avait été premier joueur français à remporter un cercle du PGA Tour.
C'est de jouer les majeurs régulièrement. Et d'être performant de plus en plus régulièrement dans ces majeurs-là. Et c'est hyper important pour que les golf français vivent ça.
Je vous le dis, même si on est à la bourre, je prends le temps quand même parce que c'est du golf. Voilà, pardonnez-moi, je paierai la
publicité. Non, mais surtout, il y a trois joueurs qui sont à égalité à moins 4.
Avec notamment Rory McIlroy.
Avec Rory McIlroy, exactement.
Qui va jouer avec son pire ennemi. Ça va être formidable.
Patrick Cantlay. Il y a un petit problème en Ryder Cup entre les deux, oui.
Non, c'est juste pour que ça parle un peu aux gens. L'US Open, moi, je l'ai gagné 3 fois et j'ai pas fait du freestyle, un sport qui est devenu un truc extraordinaire et que tout le monde s'est mis à suivre. Et pourtant, il y avait la ferveur américaine et il y avait que des juges américains en bas.
Ah, laisse-nous un petit peu de bonheur, Marie. Oui, très bien.
Mais voilà. Non, c'était pour la petite blague.
Commande Mathieu Pavon, c'est à 20h21. Voilà, son départ. 20h21. Ça va finir tard, hein, minuit et demi, 1h du matin. Mathieu Pavon pour peut-être remporter l'US Open et on en parlera demain.
Allez Mathieu, c'est possible.
Le Practice RMC demain pour tout savoir sur cette US Open.
De
golf déjà. Vous avez entendu le petit cocorico, c'est le moment pour vous inscrire à l'expérience RMC Euro 2024. Vous gagnez votre voyage, vos places pour assister à France-Pologne le 25 juin prochain à Dortmund. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer Euro au 732-16. Allez, on revient et on parle de Djoko. L'ère Djoko est-elle terminée? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.